Think Tank.
Zinnlustig. Reflexion. Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport à Obtienst.
Euradio Nantes, en partenariat avec Audencia, vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bonjour, bienvenue sur Euradio, l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté en partenariat avec l'école de management Audencia Business School et le master spécialisé en management des organisations de sport d'Audencia. Nous allons aborder aujourd'hui, dans un second temps, puisqu'on a déjà consacré une émission à ça, au sport et aux médias, et on va insister un petit peu sur l'importance des nouveaux médias, la communication digitale dans le sport. On a la chance d'avoir autour de nous des invités pour participer à ce débat et je vais laisser Amandine Luce nous les présenter.
Oui, merci Julien. Alors en plateau avec nous aujourd'hui, nous avons Stéphane Maisonna, le directeur des masters spécialisés d'Audencia, David Felippo, journaliste à 20 minutes, Jean-Jacques Berman, le secrétaire de Don Bosco Cécifoot Nantes, Arthur Kéroulé, étudiant au master management des organisations de sport d'Audencia, et Vulfran Devauchel, consultant chez Kurt Salmon.
Alors peut-être on aura des réactions aussi en plateau, mais avant ça, on va laisser la parole à un étudiant d'Audencia, en l'occurrence Arthur Kéroulé. Est-ce que c'est la bonne prononciation, Arthur ?
C'est bien ça, tout à fait.
Et vous allez essayer de nous faire un petit état des lieux, justement, de ces nouvelles tendances, de ces nouveaux médias dans le domaine du sport.
Exactement. Donc du coup, comme le disait Géraldine, pour trouver son public, on va essayer d'apporter quelques chiffres pour introduire le propos. Ça permettra un bon support de conversation.
Excellent.
Donc, sur les médias numériques, donc, on sait que 65% des Français disent suivre l'actualité sportive. Donc, parmi ces 65%, donc, on a 19,5 millions d'internautes qui fréquentent des sites de sport, donc sur le web. Derrière, on sait également que les smartphones et les tablettes sont un très bon levier de développement pour donc, la consommation médiatique du sport, en France, mais donc bien sûr en Europe et à travers le monde. Derrière, donc, on a voulu, donc à Audencia, on a ce souci du chiffre juste actualisé, donc s'appuyer sur une étude notamment de Connected Life qui est sortie en octobre 2014, et donc qui fait plutôt un focus sur la pratique et les habitudes des Français, donc un internaute français qui possède en moyenne 4,6 appareils numériques, qui passe 3,3 heures sur Internet chaque jour et 2,3 heures devant la télévision, qui a également 20% d'entre eux se saisissent de leur appareil avant même de se lever, donc leur mobile généralement. Peut-être inquiétant, on verra ça par la suite. En France, donc 24% du temps connecté est passé sur un mobile, ce qui est énorme. Et devant la télévision, 48% sont engagés dans d'autres activités digitales. Donc la société multi-écran qu'on connaît aujourd'hui. Il y a également donc, l'étude The Global Sports Media Consumption Report 2014, donc publiée par Perform et Kantar Media, qui est donc davantage dans la comparaison des chiffres. Donc on sait par exemple qu'en moyenne, les fans de sport en France consomment 5 heures de sport dans les médias par semaine, mais c'est très loin des Espagnols, donc sur à 10,1 heures, donc le double, et les Anglais qui sont à 7,5 heures. Et également, donc on peut comparer entre les différentes disciplines, avec le football qui est bien sûr en tête, 32%, on a le tennis et le rugby qui suivent derrière. Donc à tout ça, donc on parle ici de médias numériques en général, on peut insister sur le web, et on peut reprendre cette belle citation de Gary Tribou dans Sponsoring Sportif. On assiste à un glissement du média TV vers le média Internet. Donc le web qui est aujourd'hui une deuxième source d'information, de consommation du sport, donc juste derrière la télévision, mais qui est passé donc devant l'imprimé, l'impression papier et la radio. Et là aussi, on peut comparer ça avec nos voisins européens, donc l'Italie et l'Espagne sont largement devant avec 67%. Je rappelle qu'en France, donc 53%. Tout ça, donc ça fait beaucoup de chiffres à digérer pour débuter cette émission. Mais derrière, on a une réflexion donc, sur ces nouveaux médias, la différence de médiatisation qu'ils peuvent apporter sur les disciplines. On parlait également de pratiques en e-sport, de sport féminin. Est-ce que ça apporte une meilleure médiatisation ou pas? Donc on sait déjà que grâce à ces nouveaux médias, on va surtout parler du web, des réseaux sociaux, ça apporte un effacement de nombreuses barrières, donc sur le plan géographique, financier, sur le plan temporel, donc avec les vidéos à la demande. Donc c'est d'ailleurs toute l'intelligence de la web radio, donc on s'affranchit de beaucoup de barrières là aussi. Et pour parler donc ces nouveaux médias, on pourrait reprendre le propos de David Felippo, donc journaliste, qui parlait de dictature du clic. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt intéressant de parler de démocratie du clic, puisque toutes les pratiques sportives, y compris celles de second rang, au sens médiatique du terme bien sûr, seraient plutôt une tribune permettant un semblant d'égalité. Donc tous ces réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, toutes ces pratiques sont rassemblées sous un même toit. Et pour la génération des zappings qui est la nôtre, le référencement ainsi, donc tout ensemble concentré, qui permet de switcher de l'une à l'autre, Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que ça permet pas aux gens de gagner donc voilà en découverte de nouvelles pratiques? Et d'ailleurs les fédérations, les ligues voient bien sûr l'intérêt que ça peut avoir pour elles. On peut parler également, donc pour finir sur cette introduction, de l'hégémonie d'image que ça introduit, parce que le support numérique rapproche le sportif du spectateur et le spectateur du sportif. Ce qui permet donc un premier constat simpliste qui serait que l'altération de l'image par un tiers rapporteur est désormais moindre, voire inexistante. On peut voir par exemple avec tout ce qui est les highlights, on a directement l'action sous les yeux, mais c'est aussi une manipulation qui se fait à notre encontre, puisqu'on sort l'action de son contexte, on cherche véritablement l'action spectaculaire, on oublie tout ce qui se passe derrière, et on jette vraiment l'inutile. Donc c'est peut-être une arme à double tranchant, nous verrons ça peut-être ensuite. Et donc, et l'impact peut-être voire même négatif pour certaines pratiques sportives. On peut voir par exemple que les sports extrêmes sont très photogéniques et donc connaissent un certain buzz sur ce nouveau média accessible à tous, mais dans le même temps, des sports tels que le curling vont certainement souffrir de cette pratique médiatique.
Merci beaucoup Arthur pour cette excellente et exhaustive présentation avec l'oreille attentive de votre directeur en plus. Et vous avez même cité David Philippot dans notre dernière émission. David, vous êtes cité et interpellé par les étudiants de la grande école d'Ancien, très flatté. Merci beaucoup Arthur.
Je vous en prie.
Justement David, on voit cette évolution, vous la vivez au quotidien cette évolution. Moi, je ne vais pas rajouter encore des chiffres puisque Arthur a été vraiment exhaustif là-dessus, mais on voit que, en particulier chez l'équipe, qui est quand même le quotidien de référence, il y a un déclin de la presse écrite. On voit les derniers chiffres, c'est moins de 12% quand même, pour plus 6,98% de pages vues sur le site de l'équipe.fr. Vous, au quotidien, vous le sentez, et je crois même que vous êtes en charge des pages web.
Bien sûr.
Chez 20 minutes, vous avez senti cette évolution et comment vous la traitez?
Là, on la sent, oui, nous à 20 minutes, très clairement, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais on est en train de nous demander de nous concentrer quasiment, pas exclusivement, mais pas loin, sur le site internet de 20 minutes. On craint fortement que le print, le papier, le journal disparaissent. Je parle de 20 minutes. D'ici 3, 4, 5 ans, j'en sais rien, mais ça peut venir très vite. Et je pense qu'on ne sera pas les seuls. Je crois que j'ai lu il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui annonçait la fin de la presse écrite, des journaux, dans une vingtaine d'années, je crois. Bon, on a encore le temps, mais ça va être vite venu. C'est pas très très loin. Donc effectivement, nous, on nous a demandé de nous recentrer sur le web, c'est une autre façon de travailler, il faut être beaucoup plus réactif. Moi, je sais que j'aime beaucoup, c'est ce côté instantané, c'est quelque chose de vraiment d'intéressant. Et puis, il y a aussi ce côté où on peut finalement, il y a une espèce d'interactivité, les lecteurs peuvent réagir sur nos papiers via les réseaux sociaux, également laisser des messages sous nos papiers, peuvent réagir à nos papiers. Donc, il y a vraiment un côté très intéressant.
Et même pour un journal gratuit, alors, puisqu'on rappelle que 20 minutes est gratuit.
Là, ça s'explique par la difficulté, enfin la publicité qui est en train de s'effondrer, le marché publicitaire.
Vous sentez la force, la puissance du sport dans vos comités de rédaction aussi, sur les nouveaux médias, dans l'idée de proposer des sujets, d'être à la une.
On le voit, j'en parle souvent, on le voit aux stats. Parce que c'est vrai qu'on a des statistiques toutes les semaines, faut pas devenir non plus, faut pas être obsédé par les statistiques, c'est ce qu'on me dit souvent, les chefs nous le disent, mais on le voit, le sport, on a un top 10 de toutes les villes, de tous les papiers, dans chaque ville en France, les grandes villes dans lesquelles 20 minutes est présent, on a un top 10 des papiers les plus lus par semaine. Sur les 10, il y a toujours au moins 5-6 papiers de sport. À Nantes, c'est le cas avec le FC Nantes. 5-6 papiers au moins toutes les semaines sur les 10 plus lus. Donc c'est vraiment que ça, le sport fonctionne, quoi.
Et sur ces 5 ou 6, évidemment le foot a une place
complètement
prépondérante, et on le voit aussi surtout les nouveaux médias, les pics de tweets ou de Facebook, on le voit, 580 000 tweets quand Sami Khedira a marqué le 5e but pour l'Allemagne à la fin de la première mi-temps. Donc on est aussi sur des actions de foot, ça c'est vraiment caractéristique, on peut le dire. dire sur les nouveaux médias, c'est encore le foot. Là, les comportements ne changent pas hein, par rapport au print. C'est encore le foot roi.
Complètement, complètement. Moi, tout à l'heure, si j'ai employé le terme de dictature, c'est que dictature du clic, c'est que oui, il n'y a pas photo entre le football et les autres sports. C'est puissance, comme je disais, puissance 10, puissance 20, quoi.
Alors, merci David. Jean-Jacques,
et juste oui, une chose, c'est pas évident pour, je me mets à la place du journal L'Équipe, c'est très très dur de trouver finalement un équilibre entre qu'est-ce qu'on doit mettre sur le web et qu'est-ce qu'on doit mettre sur le print pour ne pas non plus que les gens se disent bah finalement on a pu acheter le journal, on a tout sur le web. C'est pas facile pour les journaux, pour les médias de gérer ça. Je sais que mes confrères de Presse Océan, souvent ils me disent mais nous on peut pas mettre sur le web, on est payant, donc si on commence à mettre nos infos sur notre site, bah, qu'est-ce qu'on va proposer à nos lecteurs? Alors, est-ce que ce sont les mêmes lecteurs? On peut aussi se poser la question. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver.
Alors ça,
pour les
c'est
médias.
Très intéressant, pour les David. Médias.
Ce que fait Presse Océan, souvent, pardon,
non,
c'est qu'ils mettent un début, par exemple, ils essaient de vendre leur papier qui va paraître le lendemain dans le journal. Ils le vendent un petit peu sur leur site internet.
Donc, c'est
ils mettent pas
marketing,
tout, en fait.
C'est, hein.
Voilà, ils essaient d'attirer l'œil, quoi.
Alors, vous dites, avant de vous donner la parole Jean-Jacques, on va rester avec vous David puisque vous avez soulevé le problème. Vous dites c'est délicat évidemment de faire circuler une information sur le print et sur les nouveaux médias.
Pour les journaux payants.
Pour les journaux payants, mais oui, donc...
Pour nous, ça l'est moins.
Pour vous,
pour
évidemment.
Gratuit,
Mais est-ce que quand même pour un gratuit, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, est-ce qu'il y a quelque chose de différent quand même? Est-ce qu'on va véhiculer d'autres messages? Est-ce qu'on va prendre plus le temps de parler? Est-ce qu'on va plus rentrer dans les événements, dans l'événement, plus rentrer dans l'histoire des personnes? Et on en parlera tout à l'heure avec la médiatisation du sport pour les personnes en situation de handicap. Mais est-ce qu'on prend quand même plus le temps? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un autre public ou est-ce que c'est un ajout à justement une information qui est moins traitée sur les pages?
Déjà, on a plus de place, on a plus de liberté, plus de place sur le web. Et puis après, c'est ce qu'on nous dit, il faut qu'on écrive, on écrive web. C'est une autre forme d'écriture également. C'est comme on a plus de place, on délaye un peu plus finalement. Nous, dans le print, nos formats, dans le papier, nos formats sont un petit peu plus réduits, donc faut aller directement à l'information. Là, sur le web, on a plus de place. Et puis, ce qu'on appelle les papiers web, c'est glisser dans le papier des tweets, des vidéos. Qu'est-ce qu'on peut glisser aussi? Enfin, voilà, tout ce qui concerne le web, c'est ça qui habille finalement les papiers web.
On va venir à vous, Jean-Jacques Berman. Merci d'être avec nous. Justement, vous représentez aujourd'hui un club de CC Foot. On a parlé beaucoup de la médiatisation du foot, mais je sais que pour vous, c'est une problématique qui est plus compliquée. Hein. Vous nous avez annoncé lors de notre dernière émission vos statistiques sur Facebook et sur Twitter. Je sais que vous faites un grand travail, mais on est quand même loin des 580 000 tweets quand Kedira marque son cinquième but. C'est quoi votre stratégie? C'est quoi vos désirs? Et comment vous allez utiliser justement ces nouveaux médias pour faire parler de votre action et donner envie, parce qu'on le sait, c'est une vraie problématique, en France en particulier, les personnes en situation de handicap ont du mal à avoir accès au sport.
Oui, effectivement. Et nous, sur Don Bosco CC Foot, donc, on a pris ces deux médias, entre autres Facebook et Twitter, et notre site web aussi, comme support pour justement arriver à faire parler du CC Foot et du sport handi en général, et de se faire connaître par un maximum de gens à l'extérieur. C'est un moyen pour nous, entre autres avec le tweet, de toucher les journalistes, de toucher les entreprises, de leur faire connaître le CC Foot et de faire connaître aussi le développement que l'on veut amener au CC Foot.
Merci Jean-Jacques. Stéphane, vous aussi chez Audencia, vous développez un peu les nouveaux médias et on voit les étudiants qui sont connectés, mais j'aimerais vous faire réagir sur une des remarques d'Arthur, de votre étudiant justement. Est-ce qu'en France on est quand même un petit peu en retard déjà sur nos voisins européens et sur d'autres continents? On a l'impression quand même à écouter les statistiques. Alors, il y a un retard, effectivement, et Arthur le disait précédemment. Je pense que nous pourrons aussi interroger M. De Vauchel, et la dernière étude publiée avec Kantar le prouve. Un retard dans les habitudes, un retard dans l'utilisation aussi, que ce soit des fédérations, les clubs, des événements ou des sportifs, effectivement, les modèles à suivre ne sont pas forcément encore français.
Alors, on va continuer ce débat et se poser quelques questions. Moi, je vais encore une fois vous parler de chiffres et citer une étude, Kurt Salmon, Kantar, Audencia, qui va compléter un peu les chiffres d'Arthur sur notre consommation du sport. Effectivement, on est de plus en plus connectés, on voit que 48% des Français utilisent donc plus de 3 écrans par jour. Hein, ça, c'est quand même assez intéressant. On passe 1,5 heure par semaine à consommer du contenu sportif maintenant sur les réseaux sociaux. Essayez peut-être, David, de nous expliquer ce mode de consommation, parce que j'imagine que vous essayez d'analyser quel est votre public aussi. Dans leur comportement, est-ce que vous, journaliste, vous vous adaptez aussi à ce changement de comportement? Attention,
oui,
parce que vous allez pouvoir être cité par les étudiants.
C'est vrai que par rapport au, par exemple, au mobile, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est lors des soirées de championnat de Ligue 1. On va pas nous demander, par exemple, je suis sur un stade, on va pas me demander de faire un papier. Y a un journaliste qui travaille le samedi soir, voilà, 20 minutes. On lui demande pas de faire un résumé de chaque match. Ce qu'on va lui demander, et c'est ce qu'on fait tous les samedis, il y en a un qui fait ça en France, c'est de faire pour chaque match un petit paragraphe qui résume, avec un tweet accompagnant le paragraphe, avec une petite vidéo qui résume le match. Alors, vous mettez le score et ensuite le fait de jeu, la mauvaise décision arbitrale, une bagarre en tribune, malheureusement. Voilà, on sait qu'on est consulté sur les mobiles par des jeunes, donc on essaie de s'adapter un petit peu. Je pense que si on proposait ça à un lectorat un peu plus âgé, je suis pas persuadé qu'il serait extrêmement réceptif. Donc nous, on a décidé le samedi de changer un peu. C'est ce qu'on appelle un vrai papier web, ce dont on parlait tout à l'heure.
Alors il y a quand même des polémiques en ce moment, ces derniers temps, que l'on a pu entendre pour l'interdiction aussi des tablettes et des mobiles dans l'enceinte sportive. Alors pourquoi ça sort ça? Alors effectivement, il y a une question de droit, parce que vous l'avez dit, il y a aussi des mini-vidéos, hein, et ça...
Les points GIF, les points...
Exactement, et les détenteurs de droits sont en train de se lever face à cette question, parce qu'on peut véritablement donner de l'information, et c'est ça qui est assez génial. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, David, finalement? Est-ce qu'il faut arriver à interdire dans l'enceinte sportive tous ces types de tablettes? C'est quand même un frein à ces nouvelles communications, David, Stéphane?
Je pense pas qu'on pourra aller dans le sens contraire du progrès et des pratiques qui se mettent de plus en plus en place.
Hein. Non, mais c'est une histoire de droit télé.
Donc il faudra faire payer peut-être ça.
Ce sont les instances qui... Oui, c'est ce que les instances réclament, c'est que c'est de l'argent, tout simplement.
Amandine, on est face au football, évidemment. On essaiera de voir si les nouveaux médias sont aussi présents dans d'autres sports. Mais après cette première pause musicale que vous allez nous présenter.
Oui, on va écouter Don't Forget Who You Are de Miles Kane. So
l'émission du Think Tank Sport et Citoyenneté sur E-Radio en partenariat avec Audencia. On a la chance d'avoir sur le plateau un représentant de Don Bosco Cécifoot, Jean-Jacques Berman. Et moi, j'aimerais quand même que vous alliez un petit peu plus loin sur cette stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Parce que c'est assez inédit. On a déjà parlé, vous avez déjà reçu des prix. Zinedine Zidane est venu vous remettre un prix. Mais c'est pas pour rien. Pourquoi vous avez voulu utiliser ce support? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre seule façon de faire parler de votre sport? Parce qu'évidemment, les grands médias traditionnels ne viennent pas vous chercher. Donc, ça devient une force, hein, on l'a vu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Est-ce que c'est un désespoir? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une envie?
C'est pas du tout un désespoir. C'est que bon, ces médias existent, ces supports médiatiques existent. Donc, ben, autant les utiliser. Ça n'empêche pas que on essaye aussi d'avoir encore les médias classiques, papier ou autres. Mais c'est vrai que ces médias nouveaux qui sont énormément suivis aussi, donc c'est aussi une stratégie de pouvoir se servir de cette filière pour faire connaître le sport handicapé et le cécifoot en particulier.
Alors c'est vrai que sur ces nouveaux médias, on a la chance aussi de pouvoir accéder à des personnalités très facilement et d'avoir des réactions de personnalités. Et moi je vois, vous êtes largement retweeté par des journalistes. On en a un à la table. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous donner, David, votre arrobase.
Arrobase des Felipos, pas très compliqué. Deux P-E-A-U à la fin.
Génial. Voilà, donc on peut suivre David. On peut aussi suivre Stéphane. Fan Maisona sur Twitter. On peut aussi nous suivre, Sport et Citoyenneté, Sport and Citizen. Nous suit même Amandine Luce, Julien Jappert aussi, vous pouvez me suivre si vous avez envie. Et Don Bosco.
Également Don Bosco.
Voilà, donc ça c'était la petite page promotionnelle sur Twitter, mais il faut la faire.
Et le programme, et le MSMOS.
Et le MSMOS, Stéphane, avec le arrobas ou...
Oui, tout à fait.
Excellent. Donc c'est vrai que ça se développe et... On a la chance d'avoir parfois des retweets, et ça, vous en avez eu. Ah,
tout à fait.
Vous avez été surpris par ça, finalement, oui, de l'enthousiasme de grands journalistes, de grands médias qui se sont intéressés. Oui, je l'ai constaté à vous sur Twitter.
Oui, oui, tout à fait, parce que, bon, au début, c'est vrai qu'on... Il faut savoir aussi que nous, nous ne sommes pas du tout professionnels de la chose. Hein. Donc, ce sont des gens qui font ça, des bénévoles qui font ça de leur propre chef, je dirais, même si c'est au sein de Don Bosco leur mission de développer la partie médiatique. Mais
donc vous avez plusieurs personnes, bénévoles qui travaillent sur les nouveaux médias.
Voilà, enfin sur les nouveaux médias, oui, on a trois personnes, une spécialisée sur Facebook, une qui est Twitter, Anthony Horto, pour ne pas le citer, hein, et aussi une personne qui est plus chargée sur Internet du blog de Don Bosco Cécifoot. Mais bon, on s'aperçoit que les blogs, c'est mort, ça y est, c'est fini pratiquement. Justement dû à ces nouveaux médias.
Alors David, vous êtes sollicité, vous, en tant que personnalité publique, quand même journaliste aussi. Nous, on le remarque pas mal sur Sport et Citoyenneté. On a de plus en plus de gens qui utilisent ce vecteur pour nous toucher directement, nous poser des questions, nous solliciter sur des actions. Comment vous gérez ça? Parce que vous avez un compte Twitter qui est assez actif quand même.
Moi, j'avais déjà un compte Facebook lorsque 20 minutes est vraiment passé sur le web. Mais on m'a très clairement dit, il faut que tu aies un compte Twitter. Parce qu'il est important que tu partages tes papiers, les papiers que tu rédiges, tu les mettes sur les réseaux sociaux. Donc on a un Facebook 20 minutes Nantes, on a un Twitter 20 minutes Nantes, et j'ai également, moi, un compte Facebook perso. Facebook, c'est un peu moins professionnel, à mon avis. Et un compte Twitter, donc on m'a incité, on va dire, à avoir un compte Twitter personnel. Ça me permet de partager mes papiers. Effectivement, j'ai beaucoup de réactions aux papiers. Je reçois parfois des insultes, voilà, faut quand même dire. On m'a déconseillé de répondre tout le temps, des gens qui sont pas d'accord avec ce que j'écris, avec ce que je dis, avec c'est extrêmement chronophage. C'est vraiment moi je suis connecté en permanence à Twitter et Facebook. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais il y a TweetDeck qui est excellent pour ça, parce que c'est vrai que Twitter, ça me permet de partager mes papiers, mais c'est aussi un nid d'information. Sur TweetDeck par exemple, j'ai mis FC Nantes et tous les papiers, tous les tweets concernant le FC Nantes, donc dans ces tweets, il y a parfois des informations, viennent sur mon écran minute par minute, quoi. Donc alors, c'est vrai que ça permet de partager, mais également d'avoir des informations.
Alors David, est-ce que vous utilisez aussi, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites, vous utilisez votre compte Twitter pour un grand média, 20 minutes, mais est-ce que vous l'utilisez aussi pour aller justement au-delà, c'est-à-dire avec une certaine liberté personnelle, ou est-ce que vous vous sentez un peu quand même aussi
oui, parce que j'ai indiqué, c'est ce qu'on nous dit de mettre, hein, mes tweets n'engagent que moi. Ça, je l'ai bien précisé. J'ai aussi accès au compte Twitter de 20 minutes Nantes, donc je mets aussi mes papiers là-dessus, je mets mes papiers également sur le mien. Lorsque je fais des remarques des remarques personnelles, voilà, ça n'engage que moi, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai bien précisé sur Twitter. Mais c'est vrai que Twitter, ça permet vraiment, et j'en ai parlé tout à l'heure, ça m'arrive avant de faire un sujet de demander l'avis à des tweetos sur quel est le but du FC Nantes qui vous a marqué ces 10 dernières années. Lorsqu'on fait des papiers comme ça, c'est hyper interactif, bien sûr,
public.
Bien
donc
sûr,
on est quand même là aussi intérêt. Dans l'utilisation d'un média citoyen,
ouais, exactement.
Qui peut vous orienter dans l'écriture même d'un article.
On peut servir aussi de... on parlait tout à l'heure des papiers web. Je le redis, les tweets sont super importants. C'est très facile d'intégrer un tweet dans un papier web.
Stéphane, on l'a vu, moi je l'ai fortement ressenti aussi chez vos étudiants sur cette promotion par rapport à la promotion de l'année dernière. Ils sont aussi plus connectés. Peut-être même pendant les cours ou pendant les émissions.
Ah oui, ils relaient effectivement pendant les cours les mots-clés ou les phrases importantes qu'ils peuvent déceler.
Est-ce que là, vous leur donnez des instructions, ou est-ce que vous essayez de limiter ou de contrôler ou de modérer, ou parce que c'est les décideurs de demain, hein, chez vous, du monde du sport. Donc, vous les incitez à ça ou
On les incite, on les encourage très fortement. On peut pas les contrôler à l'heure actuelle. C'est impossible. On peut leur donner les directives, les encourager à le faire, mais après, effectivement, ça reste leur outil. Hein.
Alors, on a vu dans l'équipe, justement, encore, on cite beaucoup l'équipe, mais bon, c'est un média de référence, qu'il y a aussi des grands dirigeants de sport qui sont de plus en plus connectés. On le voit avec le président de la Fédération française de basket, qui utilise ça aussi pour avoir une communication un petit peu moins institutionnelle et peut-être plus proche du public. Donc, on peut imaginer que les managers de demain auront peut-être cet état d'esprit aussi et tiendront compte peut-être d'avis citoyen.
Mais est-ce que c'est lui qui communique vraiment sur Twitter?
Ça, c'est la question.
Qu'il y a énormément, par exemple, de joueurs de foot qui ont des comptes Twitter, mais pour la plupart, ce sont des personnes de confiance qui gèrent les comptes.
Effectivement, alors justement, très bonne transition. Merci David pour nous citer encore un chiffre. On va pas vous inonder, mais évidemment, c'est encore le football roi. 12 joueurs de foot ont 337 millions de fans. Là, on est sur Facebook et Ronaldo à lui tout seul. Fans combinés Facebook et Twitter, on est à 110 millions de personnes. Donc, on est dans des chiffres complètement ahurissants. Mais c'est aussi la réalité du marché. Marché que connaît bien Wulfranc de Vauchel, de chez Kurt Salmon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Wulfranc.
Bonjour.
Je sais que vous lancez beaucoup d'études et en partenariat aussi avec Audencia.
Stéphane, diplômé d'Audencia.
Diplômé d'Audencia.
Diplômé, oui, tout à fait. Dumos d'Audencia, oui.
Excellent, Wulfranc. Alors, on vous attend évidemment sur ces études et sur l'état des lieux un peu de cette problématique du marché et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait chez Kurt Salmon?
Alors, effectivement, on a sorti un certain nombre d'études, la dernière en date étant le Digital Sport Challenge 2014, qui globalement est une étude consacrée aux usages des acteurs du sport français en matière de médias sociaux et de stratégie Internet. Alors on travaille pour sortir cette étude avec Audencia, bien sûr, avec aussi Kantar Sport qui amène un certain nombre de données sur la compréhension du sport, de la relation entre les Français, le sport et les médias. C'est une étude qui s'inscrit directement dans la continuité de travaux qu'on avait en 2009 sur en fait globalement le temps libre des Français dédié au sport. Et on souhaitait à travers cette édition 2014, si vous voulez, apporter un éclairage globalement sur l'utilisation des moyens de communication numérique par les acteurs du monde du sport. On a étudié le comportement d'environ 150 marques. Alors quand on parle de marques, on intègre aussi nous les athlètes, puisqu'on est bien maintenant avec les réseaux sociaux, le sujet que vous avez évoqué précédemment, bien dans une logique de marque athlète, entre guillemets. Et on réalise un état des lieux, des usages, et on met en évidence les stratégies les plus pertinentes du marché. Ce qui nous amène globalement à voir un certain nombre de tendances qui se dégagent. Et puis on a essayé à travers cette étude de cadrer un petit peu le phénomène de la consommation du sport dans les médias, avec quelques enseignements assez intéressants qui ressortent, et notamment le fait que, alors c'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation, que la France n'est pas vraiment un pays fan de sport, avec, et je ne vais pas non plus citer trop nombreux chiffres, mais 65% seulement de la population qui déclare suivre du sport dans les médias. Quand on compare à des standards internationaux, si vous voulez, on est très loin des 77% de l'Allemagne, des 82% de l'Espagne, voire même des 93% d'Indiens qui déclarent suivre du sport dans les médias. Et puis en moyenne, alors quand on traduit ça, si vous voulez, en temps passé, en temps de consommation passé dans les médias pour consommer du sport, ça fait environ 5 heures par semaine pour chaque Français. Là encore, on est très loin des Espagnols qui consomment 10 heures de sport par semaine, 7h30 pour les Anglais, et puis les Brésiliens font par exemple à 14 heures. Donc on a un vrai phénomène en France de sous-consommation du sport, et on en déduit à travers cette étude notamment que la France n'est pas vraiment un pays fan de sport, ce qui n'est pas en soi une surprise.
Wulfran, on est sur tout support confondu là dans ces données?
Tout à fait, tous les supports médias entre guillemets, on fait des focus après plus spécifiques sur un certain nombre de supports, alors que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, à chaque fois la tendance qui se dégage par rapport à la position de la France est un retard conséquent. On a vraiment un pays qui est télédépendant dans sa consommation de sport. On a 87% des fans de sport en France qui consomment ce produit à la télévision. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le consomment pas ailleurs, mais c'est vraiment l'outil privilégié. J'ai envie de dire que c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les pays internationaux. Là où c'est un petit peu plus inquiétant, c'est dans la consommation de sport sur Internet. On a 53% des fans de sport qui suivent le sport sur Internet. On est très loin de l'Italie, très loin de la Russie. Il y a 81% des Chinois qui consomment du sport par Internet. Même chose sur les réseaux sociaux. Il y a seulement 21% des Français fans de sport qui utilisent les réseaux sociaux pour consommer, entre guillemets, du sport. Voilà, on est à 62% en Turquie, on est à 65% aux Émirats Arabes Unis, 38% en Italie. Donc il y a un retard général sur l'ensemble des supports qu'on a constaté à travers cette étude.
Une question de Stéphane.
J'aurais une question pour Wulfran. Je sais que retard sur la consommation, mais y a-t-il pas un retard aussi sur la production et l'utilisation par les différents acteurs du milieu sportif de ces médias?
Si, enfin, je pense que globalement, on peut dire ça, mais d'une manière générale, et ça c'est vraiment ma traduction personnelle, je pense qu'on a une approche culturelle et une consommation du sport qui est très différente dans notre pays. Une valorisation et une image du sport qui est peut-être un petit peu péjorative, dans le sens où on a tendance à survaloriser la notion de culture. La France est le pays de la culture, ce qui est une chose fondamentale et extrêmement importante, mais on ne met pas le sport au même niveau de la culture. Et dans notre pays, je pense qu'on a trop tendance, et on le voit de toute façon, le sport n'est pas un sujet pris au sérieux, mais d'une manière générale, que ce soit dans notre gouvernance, dans notre organisation, dans les remaniements successifs qui ont amené aussi, par exemple, le ministère des Sports, on est, je crois, à 7 ministres des Sports en 5 ou 6 ans, enfin voilà. D'une manière générale, on a une considération par rapport au sport qui est, je trouve, sous-valorisé. Et l'étude a tendance à confirmer ça. Culturellement, la France n'est pas un pays de sport.
Alors moi, je vais compléter aussi le propos de Wilfranc, puisque nous, on travaille sur les aspects sociétaux aussi du sport. Et je crois que la question, c'est le style de vie, finalement. Et c'est tout à fait lié au style de vie. En France, on n'a pas un style de vie qui est axé vers la pratique d'une activité physique, ou qui n'est pas assez axé. Et d'ailleurs, c'est une vraie problématique de santé publique, on le voit, avec l'augmentation de la sédentarité, de l'obésité. On vient de travailler, nous, sur le projet de loi santé, où le sport n'était même pas mentionné. Donc, on n'est pas dans ce que les anglo-saxons ou dans les pays nordiques appellent le lifestyle. On n'est pas dans la pratique. Et je pense que le fait de ne pas être dans une pratique assez soutenue ou moins importante que nos voisins européens, ça nous fait être des consommateurs de sport, et même sur les nouveaux médias, c'est ça qui est intéressant dans l'étude de Wilfranc, un petit peu moins important que nos voisins. Merci beaucoup, Wilfranc. Je sais aussi que vous animez avec le fameux Vincent Chaudel un Twitter, donc c'est la seconde promotion.
Alors oui, on a un Twitter qui s'appelle donc l'Observatoire du Sport Business. Et on a en fait un blog qui s'appelle l'Observatoire du Sport Business, qui est un blog invité du Figaro. Voilà, donc moi je vous invite à découvrir à la fois nos papiers et puis à venir interagir avec nous sur Twitter.
Tant que Wilfranc est là, est-ce qu'il y a une question pour Wilfranc? Peut-être Wilfranc, puisqu'on a aussi un des représentants du CC Foot, est-ce que vous avez pu, dans votre étude, ou ça pourrait être une idée d'ailleurs, qu'on pourrait vous suggérer, essayer de voir comment les sports moins médiatisés, alors évidemment il y a la pratique du handisport, le sport féminin, étaient appréhendés sur les réseaux sociaux. Là j'ai l'impression qu'on a été un peu en manque de données, peut-être parce qu'il n'y a pas encore grand chose, mais est-ce que vous avez appréhendé ça, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire?
Alors c'est quelque chose qu'on pourrait faire, c'est quelque chose qu'on n'a pas appréhendé. Je pense que ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait précédemment. On a un tel retard qu'on a déjà un retard sur les bases. Quand je dis les bases, c'est les sports les plus populaires, entre guillemets. Le sujet est particulièrement intéressant hein, sur ces thématiques-là. En France, on se doit déjà dans un premier temps, j'ai envie de dire, de réussir à sortir des données compilables, correctes, utilisables sur la consommation de sport en général. Et la consommation de sport en général, c'est un texte, c'est sport particulier sur lesquels globalement le ministère fait un certain nombre d'efforts et d'investissements. On a encore un petit peu de mal à voir les premiers résultats qui ressortent. Mais nous, c'est effectivement un sujet qui nous intéresse, qu'on essaie d'aborder aussi à travers notre blog et d'écrire des papiers spécifiques, voilà, pas rester sur les sports entre guillemets majeurs, et sur lesquels on continuera à travailler à l'avenir.
Merci beaucoup, Wilfranc. Moi, j'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que la suprématie du foot dans vos études, vous la sentez aussi véritablement? Est-ce qu'elle est renforcée sur les nouveaux médias? Ou est-ce que c'est la même tendance? Est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est renforcé? Est-ce que c'est moindre?
Ouais, alors c'est renforcé, tout à fait, tout simplement, c'est une question de popularité. Ensuite, on a une locomotive au football qui est le Paris Saint-Germain, qui, dans le cadre de l'étude et des 150 marques qu'on a étudiées, est la marque qui remporte, entre guillemets, ce Digital Challenge. Il y a tout simplement parce que c'est une marque qui a réussi à rentrer dans la logique d'internationalisation.
Vous êtes en train de me dire, Wilfranc, qu'ils sont devant l'Olympique de Marseille, là je ne vous crois pas objectif. Honnêtement.
Je vous dis qu'ils sont devant l'Olympique de Marseille, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de critères d'évaluation qui ne sont pas uniquement des critères quantitatifs. Et même sur les critères quantitatifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a étudié les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain est loin devant l'Olympique de Marseille. Hein, c'est une certitude. Tout simplement pourquoi? Puisque vous regardez, par exemple, le compte Facebook du Paris Saint-Germain, qui a un certain nombre d'abonnés. Vous le comparez par rapport à l'Olympique de Marseille, je crois qu'on est sur un rapport de maintenant 1 à 4 ou 1 à 3, enfin bref. 85% maintenant des fans du compte du Paris Saint-Germain sur Facebook sont des fans étrangers. Et c'est en ça sur le Paris Saint-Germain.
Mais c'est pas des femmes qui ont été achetées ou des choses comme ça, hein.
Non. Honnêtement, non, ce ne sont pas des femmes achetées. Mais c'est là où on voit qu'il y a une étape qui a été franchie. Marseille est un grand club, il n'y a pas de sujet. Mais Marseille sera un club international le jour où ils auront une capacité à attirer des fans étrangers. Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est la vraie problématique du football français, c'est la vraie problématique du sport français en général. On a toujours eu un problème par rapport à l'international. On peut extrapoler en parlant des candidatures aux Jeux Olympiques. Mais voilà, donc d'une manière générale, pour revenir à la question que vous avez posée, oui, le foot est quand même en avance. Néanmoins, ça n'empêche pas un certain nombre de sports, un certain nombre de marques d'avoir des initiatives qui sont innovantes et qui leur permettent de se dégager assez facilement aussi et de se différencier par rapport à la concurrence. Je pense notamment au rugby. Au football, on parle beaucoup des gros clubs, mais un club qui est très connue pour les innovations qu'elle réalise sur les plateformes des réseaux sociaux, c'est le Toulouse Football Club.
Merci beaucoup Villefranc pour toutes ces informations. Et
le PSG a aussi des grandes stars, c'est aussi pour ça, des grandes stars évidemment. Étrangères. Marseille finalement n'a pas de grandes stars étrangères dans son équipe.
Tout à fait.
Payet, Thauvin, Gignac sont français.
Alors si même les Nantais s'y mettent.
Non mais il faut dire ce qui est. Non mais c'est aussi pour ça que le PSG a autant de fans.
Julien, la quantité n'enlèvera pas la qualité des fans de l'OM.
Merci beaucoup Villefranc, on va clore ce petit débat sur
merci
une pause musicale.
Oui, je sais que c'est une chanson qui va te faire plaisir Julien, on va écouter Black is Dead de Pitjorn et Scarlett Johansson.
Oui, c'est plus pour Scarlett Johansson que pour Pitjorn. Black is Dead, Pitjorn et Scarlett Johansson. Ça laisse rêveur. Les nouveaux médias, le sport et les médias, une émission du think tank sport et citoyenneté sur Euradio. Je crois que la parole a été très libre. Peut-être qu'on va conclure par un dernier tour de table et essayer de se poser la question de façon très personnelle de ce qu'on attend, nous, de ce qu'on espère des nouveaux médias et de peut-être de leur influence sur la société. Je reviens souvent à cette question, mais on crée une société pour nous, mais aussi pour les générations futures. Donc, est-ce que on attend trop peut-être des nouveaux médias? Est-ce qu'on en a peur? Est-ce que ça va permettre de développer, de mettre en lumière de nouvelles pratiques ou de faciliter la vie de certaines personnes? Jean-Jacques, on aimerait bien votre réaction à ça. Oui. À vous, qu'est-ce que vous attendez de ça personnellement et avec votre club?
Ben, personnellement, oui, je crois que ces médias nouveaux servent justement à se faire connaître. Faut pas en avoir peur. Pour moi, ce sont des outils qui évolueront dans le temps, comme la presse a pu évoluer. Et donc, faudra suivre ces évolutions. Il y aura toujours des dérives aussi à droite et à gauche. Bon, ben, il faut canaliser. Ça, c'est comme ça. C'est le...
Pour votre club, vous espérez que ce soit aussi détonateur pour que d'autres médias plus importants puissent prendre le relais,
bien sûr.
Et que la pratique puisse se développer? C'est quelque chose que vous attendez?
Bien sûr. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais bon, le CCFoot, c'est quand même une petite partie du sport handi. On n'a pas beaucoup de clubs en France. Hein. On est 18 clubs en France. Enfin, 11 clubs, pardon, et 18 sections. Donc, effectivement, à travers ces médias, ces nouveaux médias, c'est l'occasion de parler du CCFoot, de se faire connaître et peut-être d'intéresser d'autres personnes qui viendront vers nous.
Amandine, on a beaucoup de femmes dans notre think tank qui prennent la parole sur ce sujet. Je pense à Marie-Cécile Nave, notre vice-présidente, et qui nous disent finalement, les femmes prendront le pouvoir dans le domaine du sport par les réseaux sociaux. Vous animez notre compte Sport et Citoyenneté, vous le sentez ça au quotidien?
Oui, je le sens. Et effectivement, je pense que les réseaux sociaux, c'est un excellent moyen, peu onéreux, de faire connaître ces activités. Je pense que c'est par les réseaux sociaux que des disciplines peu médiatisées aujourd'hui pourront gagner en notoriété. Et on a dit que la pratique entraînait la médiatisation, mais je crois surtout que la médiatisation entraîne la pratique. C'est un enjeu de santé publique, de médiatiser le sport pour entraîner les gens à faire du sport, tout simplement.
Effectivement, on l'a vu, le meilleur exemple, c'était Laure Manoudou. Quand on a commencé à médiatiser Laure Manoudou, on a vu les petites filles qui allaient s'inscrire au club de natation, et il y a eu véritablement des conséquences. David, une idée, un espoir,
un
scénar science-fiction?
Non, moi je suis plutôt inquiet. Quand je vois un peu ce que... Je vais parler vraiment de mon expérience, de ce que parfois on nous demande à 20 minutes, quand on reçoit les stats et quand on voit que les papiers sportifs qui ont les mieux marché, ce sont pas des portraits au long cours ou des vrais sujets de fond, mais une pauvre vidéo d'un supporter qui était à poil et qui a traversé le terrain. Voilà, je suis assez inquiet. Je pense que... j'ai pas l'impression qu'on va nous tirer vers le haut, nous les journalistes. J'en ai parlé, c'est la dictature du clic, c'est le marché qui veut ça. Je vous le disais tout à l'heure, on va avoir des objectifs d'audience. Je pense qu'on ne va pas être le seul site à avoir ça, des objectifs d'audience individuels. Ça pousse pas toujours à faire des choses de qualité.
Stéphane, c'est vous qui formez les décideurs de demain. Il y a un message d'alerte quand même là de David. J'imagine que vos étudiants seront sensibles à revenir à des articles longs, bien écrits, développés, humains, avec une véritable vocation d'améliorer notre société. C'est ça aussi que vous attendez ou pas?
Ah bah oui, très, très clairement. Je rebouclerai sur quelque chose qu'a pu dire Arthur en début d'émission. Effectivement, ces nouveaux médias, c'est vraiment une arme à double tranchant. Je dirais qu'ils forment peut-être un contre-pouvoir aux médias traditionnels qui ne prennent pas toujours la peine de médiatiser certains sports, on a pu le voir, mais qu'effectivement on peut aussi faire passer tout et n'importe quoi et pas grand chose finalement par ces nouveaux médias. Ils seront, mais il ne faut pas en avoir peur, je reviens, et c'est peut-être ma note d'espoir de ce point de vue-là, être réellement acteur et développer sa propre stratégie à l'aide de ces nouveaux médias. Et je pense que le Don Bosco CCFoot en est un exemple très, très marquant.
Merci beaucoup à tous pour votre liberté de parole. Je vais céder la parole de fin à Amandine pour l'agenda du think tank Sport et Citoyenneté.
Oui, alors à l'agenda du think tank Sport et Citoyenneté, il y aura notre kick-off meeting du projet Erasmus, donc la réunion de lancement du projet PASS, Physical Activity Serving Society, à Paris. Et vous pouvez évidemment retrouver notre émission et suivre les activités du think tank sur Twitter, sur Facebook et sur sportetcitoyenneté.com.
Merci beaucoup sur Radio et à très bientôt. Au revoir.
Think Tank, Wissenschaftsausschuss.
C'était Sport et Citoyenneté. Retrouvez cette émission en podcast sur eradionantes.eu.